Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, au studio, nous recevons monsieur Jean-Pierre Rouy. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jean-Pierre Rouy, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Diwa et vous êtes aussi attaché au tourisme, à la déchetterie, aux déchetteries et aussi au Martouret, au centre de vacances du Martouret. Ensuite, à vos côtés, nous avons madame Wafa El Ayani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable pour le pôle zéro déchet et vous êtes la partie administrative et financière de cette organisation. Et puis pour finir, monsieur Rémi Aubert, pareillement aussi, co-responsable donc du pôle. Et vous êtes chargé de l'exploitation des déchetteries.
Très bien, bonjour.
Bonjour. Alors, tous les trois, vous êtes ici pour nous parler un peu de ce secteur d'activité qui est toujours en développement, j'imagine. C'est celui de la déchetterie et puis on peut aussi parler de ce qu'il y a autour, le recyclage notamment et puis peut-être d'éventuels partenariats ou de développement d'un un secteur économique sur le Diwa.
Oui, donc bien merci de nous avoir invités à nouveau, d'inviter la communauté de communes du Diwa pour cette interview. Voilà, donc moi je suis vice-président à la Comcom, comme vous l'avez dit, et je suis plus particulièrement dans ma compétence, il y a le service déchets. Donc aujourd'hui, vous invitez le service zéro déchets. Voilà, donc nous travaillons pas tout seul, hein, on travaille avec les élus du territoire, et pour ce faire, nous avons une commission qui travaille, qui en planche sur l'avenir, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qu'il faut faire. On travaille en commission et c'est un des moments qui sont très importants parce que ça nous donne des lignes de conduite. Voilà, donc la Comcom, on travaille avec des commissions. Après, on travaille bien sûr avec l'exécutif de la communauté de communes du Diwa. Et puis après, les décisions se prennent en bureau et conseil communautaire. Voilà, donc la communauté de communes du Diwa, elle est vaste, hein, vous le savez, 50 communes. Et sur ces 50 communes, nous avons 5 aires de tri. Parce qu'on s'attache à ne plus dire déchetterie, mais aires de tri. Voilà, parce que le tri a fortement évolué. Et nos responsables de déchetterie, d'aires de tri, excusez-moi, vous voyez, c'est pas facile. Nos responsables d'aires de tri, ils sont de plus en plus formés, ils ont de plus en plus de compétences. Parce que, bien sûr, il y a de plus en plus de flux de tri. Voilà. Donc. La Comcom est très attachée au territoire, à notre territoire, et on essaye de faire pour tout le monde, le plus près possible des habitants. Et donc, aujourd'hui, nous avons 5 aires de tri. Ça a été un choix de la commission, ça a été un choix du conseil communautaire aussi. Hein. Bien sûr, ces 5 aires de tri, il y a un coût. Il y a un coût, forcément. Il faut nos gars se déplacent, nos camions, nos agents se déplacent. Et ça a été un choix, parce qu'à un moment, on s'est dit, pourquoi pas faire une aire de tri au centre de notre Diwa. Bon, ça a été une levée de bouclier. Donc aujourd'hui, on a nos 5 aires de tri, et il faut assumer le gardiennage. Donc c'est pour ça que ça a été un débat avec certaines communes, pour recalculer les heures d'ouverture. Voilà. Mais ça, je vais laisser la parole à Rémi, qui est bien au courant du dossier.
Avant de continuer, on pourra préciser aussi quels sont les endroits où sont ces aires de tri.
Tout à fait. Donc, c'est très marquant par rapport au territoire. Donc, il y en a une, bien sûr, sur Die, qui est au quartier Chapia. Voilà. Après, il y en a une sur Luce-la-Croix-Haute. Vous voyez, c'est limite Isère. Après, nous en avons une sur la commune de Menglon. Donc, on l'appelle Menglon et aire de tri aussi de Châtillon. Après, nous en avons une sur La Motte-Chalancon, et puis côté Rouen, et puis bien sûr celle de Lucan-Dubois.
Voilà, et donc Rémi, vous êtes en charge justement de cette exploitation, de ces aires de tri. Quelle est votre fonction? Quelles sont les compétences demandées sur votre fonction et quelles sont celles que vous utilisez pour cette activité?
Alors, donc du coup, moi, je suis le responsable d'exploitation, donc responsable de 10 agents, donc des agents qui sont formés pour la conduite poids lourd, super lourd, des agents des aires de tri, des gardiens de aires de tri. Jean-Pierre l'a précisé, le territoire est très vaste, donc c'est un service qui est difficile à organiser. Nous, tout flux, alors un flux, qu'est-ce qu'on appelle un flux? Déjà, c'est en fait une chose, voilà. Donc, par exemple, sur l'aire de tri de Die, on peut amener 24 choses différentes, 24 flux différents, voilà. Tous ces flux sont transférés dans certains exutoires. Les nôtres sont principalement dans la vallée du Rhône. Donc, les ordures ménagères vont au centre de valorisation organique à Fiancé. Pour les colonnes papier, les colonnes emballage, donc vont au Citrade à Port-les-Valences, ainsi que le carton. Voilà. Nous transportons le verre jusqu'à la Ville-Dieu, voilà, près d'Aubenas. Donc, en fait, il faut penser quand même qu'on collecte le verre sur l'Usse-la-Corotte et le verre traverse toute la Drôme et va jusqu'en Ardèche pour arriver à l'usine. Voilà. Mes compétences, manager un service avec l'organisation générale de ce service. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Notamment au niveau des agents, voilà, je ne suis pas tout seul, hein, j'ai un adjoint bien entendu qui organise au quotidien tous les transports et tous les enlèvements, parce que nos aires de tri, par jour, il y a 3 aires de tri qui sont ouvertes, voilà, et forcément, il y a beaucoup, beaucoup de transports à faire pour que les usagers puissent avoir les benvines quand ils arrivent en aire de tri.
Wafa, Madame Wafa El Ayani, oui. Vous donc vous êtes dans l'aspect administratif. C'est vous qui êtes aussi au contact avec la population ou des entreprises pour permettre justement votre action sur le territoire.
Oui, tout à fait. Je suis le lien à nos principaux interlocuteurs qui sont les centres de vacances, les campings, pour tout ce qui est fiscalité. J'ai en charge aujourd'hui toutes les réponses à faire aux usagers ou aux communes. Dans quelques mois, on va être justement, et j'aurai un soutien à ce niveau-là, parce qu'on va embaucher une assistante administrative ou un assistant administratif. Au niveau des aires de tri et des réemplois, je rajouterai par rapport à Jean-Pierre et Rémi. Du coup, on a on adhère au Citrade, qui est notre syndicat de traitement. On cotise pour pouvoir apporter nos ordures ménagères et le tri sélectif, qui sont les colonnes jaunes, bleues et vertes. Et pardon, bleues, pas la verte, pardon. On a différents contrats avec les éco-organismes. Un éco-organisme, c'est quoi ? C'est justement, par exemple, quand vous achetez un mobilier, vous payez une taxe éco. Cette taxe éco est versée alors l'éco-organisme, par exemple, pour le mobilier, c'est Écomobilier. Écomobilier, justement, nous reverse à toutes les collectivités en charge des déchets la taxe pour, justement, nous permettre de nous soutenir financièrement en fonction de nos... avec des soutiens fixes qui sont en fonction des bennes qu'on a et aussi des soutiens variables par rapport au tonnage qu'on fait. Voilà, ces différents systèmes, pour ne pas citer le plus gros éco-organisme, c'est Citeo. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 182 000 euros de soutien à l'année pour notre service. Voilà, donc notre service est financé par la TOM, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, que paye chaque locataire ou propriétaire. Ensuite, c'est la redevance des campings et des centres de vacances. Pour pouvoir bénéficier de notre service de collecte, de transfert et de traitement, les campings et les centres de vacances et certains professionnels ont décidé d'adhérer à notre service de collecte et payent en contrepartie une redevance. Et on a également les soutiens financiers des éco-organismes.
Oui, oui. Wafa, elle est partie sur les chiffres. Donc, le budget général du service, c'est 2 600 000 euros.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, ça paraît beaucoup. Hein. Y a de quoi faire avec 2 600 000. Mais en réalité, c'est toujours en flux tendu. Mmh. Parce que nous avons du matériel qu'il faut entretenir, du matériel qu'il faut nourrir. Hein. Il y a du gasoil, il y a, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a tout ce qui est pneumatique et les services sont très à l'écoute. Voilà. Ça peut vite déraper et aujourd'hui, ça va. On maîtrise.
Les aires de tri qui sont en service actuellement, la dernière a été créée quand précisément ?
Alors, les aires de tri sur notre territoire, on a commencé un programme de remise au goût du jour. Parce que la durée d'une zone comme ça, c'est pas longtemps, compte tenu qu'il arrive toujours des nouvelles consignes de tri, il faut s'adapter et puis il faut toujours prévoir l'espace. Donc nous avons travaillé en 2019-2020 sur deux aires de tri, celle de Lameau de Chalancon et de Luc-en-Diois, que nous avons remis au goût du jour. Voilà. Alors bien sûr, quand il y a la mise en route, on ferme 3-4 mois, il y a une mise en route qui se fait et les usagers, ils crient au début, ils disent oh là là, c'était mieux avant. Et ben non, aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est mieux, la rotation est plus facile, tout ça. Bon, voilà, c'est un mauvais moment quand c'est fermé, mais après il faut s'adapter. Alors nous avons un gros dossier, c'est l'aire de tri de Die. Voilà, ce que je vous dis, c'est voilà, l'aire de tri de Die, c'est juillet-août, c'est un passage toutes les 3 minutes. Voilà, alors j'aime bien le dire en boutade, c'est le site le plus visité après le caveau de Jaillance à Die. C'est notre aire de tri. Et donc, il y a plusieurs motivations. Pourquoi on va rénover cette aire de tri ? Bon, la première, c'est pour mettre nos équipes, nos agents en sécurité et puis avec des conditions de travail qu'on leur doit aujourd'hui. Parce que c'est un site qui est dans l'ombre, qui n'est pas très facile l'hiver. Voilà. Donc, le dossier est ficelé. C'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un budget aussi qui est important. L'appel d'offres va avoir lieu là au printemps pour un chantier qui va démarrer fin août. Alors la complexité, c'est qu'on va être un site occupé pendant un an et demi. Il y aura les entreprises et nos agents avec nos camions et nos arrivées, nos départs. Voilà. Ça va pas être facile et on a estimé le surcoût du chantier à 50 000 euros. Mmh. Voilà. Et ça va, il va y avoir des tensions. Bon, il faut qu'on déplace des zones de traitement de déchets verts. Nos bennes, on va les mettre ailleurs aussi. Enfin, mais bon, on va y arriver, comme toujours. Et puis après, sur nos deux aires de tri restantes, donc Minglon, Châtillon et Luce-la-Croix-Haute, bon, ils attendront un petit peu, mais c'est prévu aussi. Dans 2 années, 3 ans, on va aussi avoir la réflexion.
Pour cette année, pour Minglon, on a décidé de procéder à l'électrification du site. Voilà. Ouais. Ça sera déjà ça, et puis.
Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, encore, à Minglon-Châtillon, il n'y a pas d'électricité dans la cabane du gardien. Donc, il n'y a pas de chauffage non plus. Et il n'y a pas de toilette non plus. Voilà, ni d'eau. Donc, ces conditions de travail sont plus acceptables, bien entendu. Alors, cet hiver, on a pallié à ça en mettant un chauffage d'appoint, mais qui est alimenté par un groupe électrogène. Donc, voilà, c'est pas terrible non plus. Là, on a fait, les collègues des bureaux, on fait une étude de faisabilité, parce que maintenant, il faut quand même demander beaucoup d'autorisations avant de se lancer. Apparemment, le dossier serait plutôt simple, voilà. Donc on va certainement électrifier cette déchetterie, cette aire de tri, pardon, avant le mois de septembre, octobre, voilà. Et puis après, on lancera un programme de réhabilitation totale sur le même principe que celle de Lameau de Chalancon et celle de Luc-en-Diois et que celle de Die, voilà. En fait, à terme, nos 5 aires de tri, alors là je compte aussi celle de Luce-la-Croix-Haute, on voit un petit peu plus loin, mais bon, on va y arriver aussi. Nos 5 aires de tri seront exactement sur le même principe de fonctionnement. Voilà.
Et pour compléter ce qu'a dit Jean-Pierre par rapport aux dépenses exceptionnelles liées aux travaux de modernisation de Die, on a procédé justement au recrutement d'un agent gardien renfort pour justement aider le gardien principal à pouvoir expliquer un peu toutes ces nuisances et pouvoir un peu aider les usagers.
Voilà, parce que comme Jean-Pierre l'a indiqué tout à l'heure, on ne procédera pas à la fermeture aux usagers. Donc il faut bien imaginer une entreprise qui va mener un énorme chantier parce qu'on va décaler les quais, en fait. Ça sera plus du côté de Die, donc plus à l'est, pour essayer de trouver le maximum de soleil. On va faire un bâtiment pour les agents, alors qu'aujourd'hui, ils sont dans des Algeco. Et malgré tout ce chantier, on continuera à accueillir les usagers. Donc, c'est un chantier de grande ampleur qui va durer entre 18 et 24 mois.
Je reviens un peu sur les déchets, ou donc, du moins les produits qui sont amenés chez vous. Il y a 27 catégories hein, donc de tri différents. Il y en a certains qui repartent grâce au citrate ou à d'autres organismes qui sont traités assez rapidement. Il y en a d'autres. Comment se fait justement le suivi de ce que vous récupérez? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se créent localement justement pour traiter certains déchets?
Au niveau du traitement, sur notre territoire, aujourd'hui, il en est rien. Mais ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années, c'est faire un conventionnement avec les acteurs de la future ressourcerie, ou plus, je pense, recyclerie. Voilà, on commence à se poser la question de quel flux pourrait être détourné localement pour éviter de parcourir des kilomètres. Nous, ça va nous aider au niveau de nos charges et les associations. Ça va permettre de créer des emplois sur le territoire. Actuellement, on est en discussion avec les associations Bicisus qui ont une matériothèque à Die, et l'association Trésor R qui a une recyclerie sur le chemin du Perrier.
Oui.
Chemin du Perrier a dit.
C'est très connu, le site.
Oui, c'est très, très connu. C'est une association qui est très connue. Et justement, c'est de pouvoir créer un bâtiment qui serait recyclerie et matériothèque en même temps. Et...
Pour compléter de ce que Wafa vient de dire, avec Bicisus, on a une convention. La CCD a une convention parce qu'on considère qu'ils détournent avant l'entrée de notre aire de tri, ils détournent des matériaux, du produit. Donc on leur donne, je crois que c'est 10 000 euros par an.
Tout à fait.
Voilà, pour justement ce détournement, et ça marche très très bien. Ils ont créé un emploi, plus c'est le mode associatif. Parce qu'il faut savoir qu'un déchet, à partir du moment où il a franchi la barrière, il nous appartient.
Tout à fait.
Il n'appartient plus à celui qui l'a amené. Voilà.
Donc justement, au jour d'aujourd'hui, sur Die, ce qu'on peut sur Die et Luc, on a des plateformes de ressourcerie où l'association Bicisus a une permanence les jeudis après-midi, me semble. Et voilà, les usagers sont amenés à déposer, s'ils le souhaitent, leurs déchets. Et dans ce cas-là, l'association les détourne.
Dans le futur aménagement de l'aire de tri de Die, il sera prévu justement cet espace pour ces entreprises de recyclage.
Oui, c'est prévu. Je laisserai la parole à Rémi après, mais c'est prévu depuis le début.
Oui.
Et c'est, je vous dis, ce n'est pas un sujet facile, parce que dans tout ça, l'organisation, il faut penser à la sécurité, nous, de nos agents, et la sécurité du public qui arrive. Et puis, des petites remorques, des véhicules, et un passage toutes les 3 minutes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a peut-être trouvé l'endroit, comment on peut faire ce fonctionnement, mais c'est pas à gagner encore.
Voilà. Oui, effectivement, donc le projet de rénovation de la nouvelle aire de tri de Die a été bâti justement au départ par rapport à tout ce qu'on pouvait éventuellement revaloriser par du coup des associations comme Bicisus ou Air Trésor. Donc vous verrez dans 2 ans, avant de rentrer dans l'aire de tri, avant de passer la barrière, il y aura une zone dédiée avec un hangar pour justement l'espace de don à ces associations, notamment aussi pour la récupération du bois. Du bois, alors nous on a deux types de bois. On appelle le bois A, c'est le bois non traité, et il y a le bois B qui est le bois traité. Aujourd'hui, on s'aperçoit sur l'aire de tri de Die, actuellement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent récupérer du bois, soit alors du bois B qui est traité pour faire du bricolage, soit du bois A en période d'hiver pour se chauffer. Voilà. Et les élus veulent garder ce système de récupération possible pour aider le maximum de gens. Voilà. Donc on a bâti nos plans par rapport à ça.
C'est très important de ce que vient d'évoquer Rémi, parce que ça a été un sujet, hein, c'est toujours un sujet, que ce soit en commission ou quand on est avec les archis, c'est toujours un sujet. Et la commission s'attache à dire, attention, il faut garder ce fonctionnement-là, qui est très 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 important pour notre territoire.
C'est vrai que je pense à ma jeunesse où on trouvait des décharges un peu partout et c'était de la chasse au trésor parfois et c'était une occupation pour les enfants. Enfin, c'était de ma génération. Ça a disparu aujourd'hui. D'ailleurs, tout ce que vous réceptionnez au niveau de la déchetterie, est-ce que vous avez moyen de valoriser cette compacité d'ailleurs, avec les entreprises comme la Citrade ou pour le verre, est-ce qu'il y a un moyen justement de réduire le coût de ces déchetteries par l'apport qu'elle peut en tirer de ces déchets justement?
Pour faire une économie, c'est simple. Hein, pour faire des économies, il faut qu'il n'y ait plus de déchets. Voilà. Et au contraire, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec malheureusement avec la crise sanitaire, les fourgons, les livreurs, ils viennent de plus en plus sur notre territoire. Et il y a des choses qui sont vraiment incohérentes. Il y a des cartons qui sont surdimensionnés, des emballages qui sont surdimensionnés, et ça arrive chez nous. Voilà. Et tout le monde s'attache à dire « mais c'est pas normal, c'est pas normal », et personne ne fait rien. Alors, c'est pas nous, à notre petit niveau, qui pouvons faire quelque chose, mais on fait remonter l'info. Voilà, après, on ne sait pas où ça s'arrête.
Justement, est-ce qu'il existe une fédération d'intercommunalités en France qui pourrait justement réfléchir sur ce problème des déchets de carton, par exemple?
Alors, on fonctionne, c'est une commune, on s'associe à l'association des maires. Alors, ça part par département, association des maires de la Drôme, avec maintenant, c'est nouveau, les présidents des intercommunalités sont associés. Et donc, l'association des maires de France, parce qu'il y a c'est chapeauté par l'association des maires de France, il y a un congrès annuel. Ce congrès, en théorie, il a lieu une fois par an au mois de novembre. Et donc, malheureusement, en 2020, ce congrès n'a pas pu avoir lieu, pour les conditions qu'on connaît. Et ce moment-là, ce congrès, ça dure 3 jours. C'est là où les petits maires, j'aime bien dire les petits maires, peuvent faire remonter les infos qu'ils ont sur le terrain. Alors certes, ils sont écoutés, pas écoutés, mais enfin, c'est noté. Et au même titre, on a des réunions à l'association des maires de la Drôme. On a aussi une journée par an, donc ça c'est au mois d'octobre, et on rencontre les services de l'État. On rencontre monsieur le préfet ou madame la préfète, et on peut dire aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Les petits maires, ils ont leur mot à dire.
Après, plus spécifiquement au niveau des déchets, il existe des associations qui travaillent activement justement au niveau des déchets, et c'est l'ADEME, et on a également Amorce qui propose beaucoup de colloques et de circulaires afin de faire améliorer le geste de tri. Voilà.
Et vous savez, le déchet est un monde fabuleux, hein, et on peut travailler, et on arrivera malheureusement. Alors après, ce qui compte, c'est ce qui va peut-être évoluer, c'est l'économie circulaire. Voilà. Qu'on essaye de travailler tous ensemble et de voir vraiment ce qu'on peut échanger, ce qu'on peut garder, ce qu'on peut retaper. Voilà. Et ça peut nous sauver. Parce qu'on voit arriver dans nos aires de tri des choses qui sont vraiment aberrantes. Quoi. Voilà. Il y a des choses qui ont encore de la valeur.
En parlant du verre, il existe une entreprise qui s'appelle, ma bouteille s'appelle Revient, je crois, qui est installée du côté de Romans. Et qu'en est-il du verre, justement? Est-ce que vous pensez aussi au verre consigné de nouveau? Est-ce que c'est jouable ou alors c'est encore utopique de pouvoir revenir au verre consigné?
Non, moi je pense que la consigne du verre c'est pas utopique, voilà. Mais nous, dans notre territoire, on est un peu loin de tout ça, quoi. Il faudrait que effectivement les grandes villes commence à mettre ce genre en place, quoi. Nous, aujourd'hui, le verre, ce qu'on peut dire, c'est qu'une bouteille de verre se valorise à 99%, quoi. Donc, du coup, moi qui suis bien placé pour en parler parce que je suis en aire de tri et c'est là où arrivent les camions qui ramassent les ordures ménagères, il y a encore beaucoup trop de verre dans les poubelles ménagères, beaucoup trop. Alors il faut savoir que ces poubelles vont au centre de valorisation, voilà, mais il y en a encore 50% du tonnage qui va en centre d'enfouissement. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas revaloriser dans un kilo d'ordures ménagères, eh ben, c'est encore enfoui dans la terre, voilà. Et notamment, dans la moitié de ce kilo, il y a beaucoup de verre encore. C'est vraiment dommage d'aujourd'hui encore de trouver du verre dans les ordures ménagères. Alors que le verre, c'est fabriqué avec du sable, hein, c'est du calcin. Donc du coup, on va puiser dans des ressources naturelles, alors que si tout le monde faisait vraiment bien le geste de tri, on puiserait moins dans ses réserves naturelles. Voilà.
Mais le geste de tri commence dans la cuisine. Hein. Nous, on a fait notre réforme qu'on a menée, on a fait des points dits propres, où vous avez toutes les solutions de tri. Voilà, ce qu'on est proposé, la solution de tri, vous l'avez. Les usagers l'ont, donc il faut qu'ils s'organisent dans leur cuisine, hein, avec plusieurs conteneurs. Et voilà, et c'est un geste qui est très, très, très simple. Mais vous savez, qui c'est qui peut nous aider, là, dans des cas comme ça? C'est les enfants qui nous aident.
Tout à fait, comme le dit Jean-Pierre, il ne suffit pas d'investir énormément en bac ou autre, ça ne prend pas de place comme certains peuvent le dire. Il suffit juste de prendre des sacs de course et de les mettre sous son évier et pouvoir trier chaque flux de côté comme ça. À l'arrivée du point d'apport volontaire et devant la colonne, on peut tout simplement mettre chaque déchet dans la bonne colonne.
Justement, j'ai vu... C'était un salon de Biovallée il y a quelques années, un pack qui permettait de présentation, qui permettait de disposer de trois sacs qui se paraissent bien. Est-ce que ça, c'est peut-être un objet qui pourrait inciter les gens à prendre conscience?
Tout à fait.
Et est-ce que vous envisagez d'en faire une distribution ou au moins d'en distribuer?
Après, il est toujours possible de pouvoir y réfléchir là-dessus. Nous, au siège de la collectivité, la Comcom du Diois, nous avons justement ces bacs de pré-tri. Mais bon, l'usager peut nous contacter et nous pouvons l'aider à trouver des solutions de pouvoir trier simplement, efficacement.
Wafa, on ne va pas les financer. Hein.
Non, on ne le financera pas, non, mais on pourra aider.
Voilà.
Tout à fait.
Les cartons, je reviens sur ce sujet, on peut se rendre compte que dans les sites de Ben, il existe beaucoup de cartons qui sont lâchés dans la nature en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour pallier cette difficulté? Il y a certainement beaucoup de personnes qui n'ont pas des moyens de locomotion pour aller jusqu'à l'aire de tri pour ramener ces cartons. Est-ce qu'il y aurait peut-être une benne à mettre à disposition comme celle qui se trouve sur la place du marché, les jours de marché pour réceptionner les cajots ou les cartons? On va me dire oui, mais on va retrouver les ordures, des sacs poubelles et tout. Quelle solution vous avez? Est-ce qu'il y en a une au moins?
Alors, les cartons, effectivement, il y a de plus en plus de cartons, et notamment avec le service, je ne vais pas citer de marque, bien entendu, mais de livraison à domicile. Voilà. Les cartons, un carton, c'est volumineux, mais tous les cartons, quand on enlève le scotch qui les lie, ils deviennent tout plats. Voilà. Et je pense que chacun peut garder. Alors, c'est pas une denrée périssable, ça sent pas mauvais si on le garde à la maison. Et on peut faire un stock de carton et de temps en temps aller en aire de tri et de réemploi sur le secteur du Diois. J'ajoute que les cartons bruns, donc c'est les cartons marrons, voilà, ne vont pas dans la colonne papier. Parce que ces cartons bruns qui vont en aire de tri et en emploi, vous avez une benne à chaque aire de tri et de réemploi, sont beaucoup plus valorisés et nous sont rachetés en fait, et nous sont beaucoup plus payés s'ils ne sont pas mélangés. Voilà. Un carton brun qui est mis dans une colonne papier, c'est une erreur de tri. Voilà.
Oui, tout à fait. Comme le dit Rémi, mettre un carton brun dans une colonne papier, la bleue, ça nous coûte 300 euros la tonne si vous décidez de le mettre dans cette colonne. Justement, l'apportant, en les pliant, en les mettant dans un coin de son garage, de sa terrasse ou autre, le plier et pouvoir l'amener en déchetterie quand on peut le faire, ça nous coûte deux fois moins cher. Coup, pour vous donner un ordre d'idée de chiffres.
Et puis, pour revenir à la benne, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, malheureusement, mettre une benne à demeure, par exemple, sur une place, on a essayé, il y a 6 ans, on a essayé, et en fait, on était à contre-courant de tout ce qu'on essayait de mettre en place, c'est-à-dire la valorisation des objets et le tri, voilà, parce que dans la benne, eh ben, vous avez des cartons, mais vous avez du plastique, vous avez du polystyrène, vous avez des chaises en plastique, vous avez tout ce que vous pouvez trouver, et ce n'est pas possible d'organiser ça, voilà, pas possible. Il y a trop d'incivilité.
Et pour finir avec le sujet du carton, on est persuadé que c'est ce qu'on pourrait réinternaliser chez nous, sur notre territoire. Et ça pourrait être une création d'emplois. Voilà. Mmh. Ça, on y travaille, on va y travailler. Voilà.
Après, pour tout vous avouer, nous, les flux où on cherche à revaloriser localement, c'est vraiment les flux qui nous coûtent très cher. Le carton en fait partie. On a des discussions autour du polystyrène qui nous coûte également très cher au service. Voilà, on essaye de toucher vraiment à des flux qui nous coûtent très cher. Vous parliez tout à l'heure du verre. Le verre, c'est quelque chose qui nous coûte quasiment rien du tout. Et du coup, c'est vrai qu'on préfère mettre toute notre énergie et toutes nos compétences sur des flux qui pourraient nous faire gagner des économies au service. Voilà comment on fonctionne.
À l'heure actuelle, le plastique, comment est-il traité dans les aires de tri? Est-ce qu'on a pu en trouver des débouchés au lieu de se retrouver dispersés sur la planète, comme on a pu le constater, par exemple?
Alors là, malheureusement, actuellement, le plastique, tout ce qui est sac en plastique, bâche en plastique, vont encore dans la benne encombrant. Voilà. Et alors, donc, la benne encombrant, en fait, c'est la benne qui est dédiée à tout ce qu'on ne peut pas trier. Voilà. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas 27 flux, c'est 24 flux en aire de tri qu'on peut trier aujourd'hui. Et quand on ne peut pas mettre ces choses dans les 24 possibilités, eh bien, ça finit dans la benne encombrant. Et les plastiques en font partie aujourd'hui, les bidons en plastique aussi. Et malheureusement, tout ça part actuellement au centre d'enfouissement à Châteauzin-Jegoubet. Donc, c'est un énorme trou, en fait, qui est quand même bâché. Hein. Donc, les civières ne vont pas dans la terre. D'ailleurs, depuis quelques années, ils ont fait une centrale de méthanisation, du coup. Parce que comme il y a encore des ordures ménagères qui vont là-bas, ça crée du méthane. Et du coup, ce méthane est récupéré, passe dans un moteur spécial et ça refait de l'électricité. Mais aujourd'hui, nombreux plastiques vont encore en centre d'enfouissement et c'est difficile de trouver des solutions locales pour ça. Voilà.
Le compost, c'est aussi une compétence de ce domaine des déchetteries au sein de la CCD?
Oui, tout à fait. Justement, on a au sein du pôle, on a une animatrice des préventions des déchets qui est disponible pour tous les usagers qui pourraient être intéressés par le compostage. On vous sollicite à la contacter au sein de la collectivité. Normalement, c'est Isabelle Zekayevski, mais elle est en congé maternité. C'est Pauline Ferres qui la remplace d'ici jusqu'à septembre. Donc voilà, elle est ouverte à tout échange à ce niveau-là, au niveau du compostage. Elle travaille sur quelques sites déjà mis en place où il faut avoir de l'appui justement. Et justement, elle cherche aussi de nouveaux sites de compostage collectif. Vous pouvez aussi, pour un particulier, faire appel à la communauté de communes pour l'achat d'un composteur individuel qui vous coûte 15 euros. La collectivité a fait le choix de participer aussi. Nous payons aussi 15 euros au CITRA de notre syndicat de traitement pour pouvoir avoir des composteurs individuels et voilà.
Ils sont mis à disposition à quel endroit, ces composteurs ?
Ces composteurs, il suffit simplement d'aller à l'accueil de la communauté de communes. La personne de l'accueil vous fait signer une convention en contrepartie d'un paiement de 15 euros. Et suite à ça, il suffit simplement d'aller en aire de tri de Die et le gardien vous fournit avec une notice le composteur.
Et tout ce qui est installation de batterie, de composteur collectif, que ce soit quartier ou village, on le fait sur la base du volontariat. Hein. Il faut que la commune ou le quartier soit d'accord, parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait fonctionner, que s'il y avait au moins deux personnes qui étaient en responsabilité et qui, de temps en temps, levaient un peu le couvercle et faisaient la manip de remuer. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Et on est à la disposition de tous, hein, et mais sur le volontariat.
Alors, je tiens à préciser qu'un compost ne prend que des végétaux. Ne sont pas autorisés les déchets d'origine organique, par exemple ?
Tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui est justement déchets carnés. Voilà, tout ça, il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas mettre des cendres.
Il ne faut pas mettre de feuilles.
Il ne faut pas mettre de feuilles.
Il ne faut pas mettre de litière pour chat.
Voilà, ouais. Voilà, exactement. Donc...
Non, c'est pour ça que c'est pour nous, c'est une piste qui est très, très, très importante. Hein, et financièrement, on s'y retrouve.
Oui, parce que si ce n'est pas composté, justement, toutes ces denrées, elles vont dans les ordures ménagères. Les ordures ménagères, c'est notre plus gros flux. On a 2400 tonnes environ par an. Donc, l'objectif, c'est réduire ces tonnages et pouvoir justement composter et baisser un peu de tout ce flux.
Est-ce que vous prenez tous les matériaux dans vos aires de tri, ou alors est-ce qu'il y a certains que vous ne pouvez pas prendre dû à leur dangerosité? Et pour ça, est-ce qu'il y a d'autres sources de captation, pour les récupérer?
Alors, en aire de tri, on prend essentiellement les déchets des usagers. Voilà. Nous, dans le Diwa, comme il n'y a pas d'aire de tri pour les professionnels, on accepte les professionnels, mais bien entendu, on ne peut pas tout accepter. Voilà. Notamment, par exemple, au niveau des pneus, on accepte les pneus déjantés, c'est-à-dire quand le pneu est séparé de la jante. Pourquoi ? Parce que la ferraille se valorise comme la ferraille et le pneu redonne un pneu. Si ça arrive ensemble, nous, on n'a pas les moyens de le faire. Et du coup, on revient toujours sur le volet financier, mais c'est le cœur du problème, c'est qu'on paye énormément d'amendes quand il y a cette erreur de tri. On prend pas non plus les pneus de tracteur, tout ce qui est agraire. Voilà. Alors, effectivement, des fois, des viticulteurs nous disent « Oui, mais vous ne les prenez pas. » Oui, mais il existe des filières privées pour ça. Voilà. Mais on comprenait bien qu'on ne peut pas tout accepter. Une fois, on nous a apporté une grenade en aire de tri. On ne peut pas accepter une grenade en aire de tri. Donc, il a fallu fermer, appeler les démineurs.
Après, comme déchets dangereux, en 2019, on a décidé, les élus de notre collectivité ont décidé d'ouvrir un service de collecte de l'amiante lié, mais uniquement aux particuliers. C'est sur rendez-vous, c'est tous les premiers vendredis du mois, hors jour férié, bien sûr. Voilà, si jamais voilà, les usagers ont de l'amiante, qu'ils n'hésitent pas à appeler le service pour bénéficier de cette collecte.
J'ai parlé de valorisation des déchets. Est-ce que vous avez d'autres pistes autour de ces déchets sur lesquels vous pouvez ainsi combler le coût, je répète, de ces aires de tri?
On l'a dit tout à l'heure, on va essayer d'écarter au maximum à l'entrée de nos aires de tri. Et là, on travaille avec Air Trampoline.
Ça, d'accord. Ouais. Mais après, la porte, le seuil franchi. Je parle vraiment des déchets. Hein. Est-ce qu'il y a encore un moyen de valoriser ces déchets? Est-ce qu'il y a encore d'autres déchets qui sont valorisables à vos yeux?
Après, comme tout à l'heure Rémi le disait, il faut se dire que la seule benne qui est enfouie et qui du coup n'est pas recyclée, c'est vraiment la benne encombrant. Et justement, dans cette benne encombrant, on essaye, justement, on va essayer de valoriser tout ce qui rentre aujourd'hui dans cette benne-là et qu'on pourra l'enlever de cette benne et la valoriser localement. C'est vraiment là le but.
Encombrant, on peut entendre par exemple un réfrigérateur ?
Non, du tout. Les réfrigérateurs, ça va justement dans les D3E. C'est la filière écosystème.
Voilà. Alors donc la filière écosystème, c'est pareil que ce que vous avez expliqué tout à l'heure pour la filière écomobilier. Quand vous achetez par exemple un réfrigérateur, vous payez une écotaxe, par exemple 5 euros pour un réfrigérateur. Et cette taxe permet au recyclage de ce réfrigérateur. Donc ça, c'est un éco-organisme qui prend des marchés avec des gens qui viennent nous chercher ces réfrigérateurs, frigos. Des PAM aussi, c'est des petits appareils ménagers, sèche-cheveux, grille-pain. Tout ça est collecté dans nos aires de tri. Et tout ça est recyclé vraiment morceau par morceau. C'est-à-dire que dans un réfrigérateur, vous avez la partie en plastique qui va éventuellement refaire du plastique, la ferraille. Il tire le gaz pour pas qu'il se diffuse dans l'atmosphère. Donc toute cette partie est très, très valorisée. Voilà.
Tout ce qui est secteur du bâtiment aussi, il y a une réflexion qui est en train de prendre de la puissance. Hein. Laine de verre, tout ce qui est isolation, tout ce qui est tout ce qu'on peut récupérer quand on démolit une maison ou quand on fait des travaux, la fédération du bâtiment est sous le coup aussi. Quoi.
Voilà. Alors, justement pour le bâtiment, nos bennes aujourd'hui, nous avons des bennes pour les gravats. Donc quand ils sont bien triés, ces gravats ont deux exutoires. Chez Lyotard et puis chez M. Chaffois, voilà, et ils sont rebroyés, reconcassés pour refaire du gravat. Voilà. On peut parler aussi de la ferraille, bien entendu, la ferraille refait de la ferraille. C'est pour ça aussi qu'il faut absolument que les ferrailles soient bien propres, bien triées, pas mélangées, parce que nos prix de reprise sont tout de suite dévalorisés. Alors, on parle beaucoup de prix, mais c'est le nerf de la guerre, quoi.
C'est le cœur de notre service.
Parce qu'on est loin des exutoires, voilà. Et mieux, moins on transporte, ben moins on fait d'impact carbone. Forcément, moins on dépense de l'argent aussi, moins on consomme de gasoil. Donc nous, on a sans arrêt ça en tête, c'est-à-dire optimiser nos trajets, essayer de réduire absolument les incivilités, les erreurs de tri. Tout ça est un ensemble qu'il faut, y faire. C'est un travail vraiment au quotidien et les gardiens sont formés exactement pour ça. On est bien, bien loin et heureusement des anciennes décharges sauvages où on mettait tout au même endroit. Voilà.
Je voudrais aborder les électroménagers hein, de manière volumineuse. Vous compactez ces appareils ou alors pour l'instant ils restent tels quels, entassés dans des bennes? Est-ce que vous avez aussi une idée de concentrer ou de conditionner encore plus ces retours avant de les vendre ou de les distribuer?
Alors non, parce que aujourd'hui c'est Écosystème qui s'occupe de ça. Et comme je viens de le dire, c'est par exemple pour un frigo. Dans un frigo, vous avez trouvé plusieurs matières différentes. Donc, pour essayer de gagner peut-être de la place et donc forcément des coûts de transport, on pourrait écraser tout ça, mais on irait à l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, tout ça est collecté pièce par pièce. Alors, en aire de tri de Dire, ils sont bien visibles parce qu'ils sont un peu trop au milieu d'ailleurs, puisqu'on manque de place. Mais tout ça est collecté par l'organisme tous les mardis et c'est bien différencié. Les frigos vont avec les frigos, les fours avec les fours et les petits appareils ménagers avec les petits appareils ménagers. Parce qu'au bout de tout ça, il y a une filière. Toutes ces choses sont réorientées dans des usines différentes, pardon, pour être valorisé au mieux possible. Voilà.
C'était par rapport à l'idée de traiter ces types de matériaux, soit le démontage, le triage, et après compaciter les déchets qui en résultent. C'était voir s'il y avait une possibilité de créer des emplois sur ces secteurs au niveau du DIWA, ou alors est-ce que c'est déjà hors de prix pour le territoire ?
Ça semble compliqué parce que, comme l'a dit Rémi, il y a plusieurs flux hein, qui sont représentés. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand vous arrivez au nouvel aire de Trix, soit La Motte-Chalancon ou Lucandiwa, on fait des locaux spéciaux pour protéger ces équipements, parce qu'on se fait souvent voler du matériel, voler des déchets. Et les nouvelles aires de tri qu'on réalise, les portes c'est tout fermé, mis à l'abri. Voilà. Et c'est même calculé que celui qui vient récupérer, il passe par un autre côté, il ne passe pas du côté public.
Ouais. Je crois qu'on n'a pas parlé des horaires, en fait.
Ah bah oui, ouais. On peut parler des horaires. Et donc, je reviens sur la question initiale. C'était l'aménagement des horaires nouvelle édition. Qu'est-ce qui va se produire de nouveau?
Alors, à partir du 1er avril, voilà, on a dû changer les horaires d'ouverture de nos 5 aires de tri et de réemploi. Jusqu'au 31 décembre 2020, notre aire de tri de réemploi de La Motte-Chalancon et celle de Luz-la-Croix-Haute étaient gardées par les agents municipaux, voilà, de ces deux petites communes. Et on avait conventionné avec eux, et quand on arrivait au bout de la convention, du coup, 31 décembre 2020, et les maires de ces deux petites communes ont souhaité récupérer leurs agents municipaux, parce que le temps qu'ils travaillaient chez nous, ils ne travaillaient pas chez eux. Quoi. Donc on a dû se réorganiser. Parce que, comme Jean-Pierre l'a expliqué tout à l'heure aussi, maintenant, être gardien d'une aire de tri de réemploi, il faut être formé tous les ans, parce que les produits sont de plus en plus spécifiques. Il faut absolument éviter les erreurs de tri qui nous coûtent très cher, donc qui coûtent de toute façon très cher aux contribuables. Donc, on a décidé de prendre le gardiennage de ces deux aires de tri sous la responsabilité du service. Voilà. Alors, il a fallu vraiment retravailler les horaires à personnel constant, parce que c'est loin, hein, l'aire de tri de La Motte et de Luz sont à 45 km de la base de Die. Les agents partent de Die, donc il a fallu tout revoir les horaires. Et puis, on était sur un système avec des heures d'été-hiver. Voilà, la dernière semaine de mars, on ouvrait une heure de plus, après on revenait au 31 octobre à une heure de moins. Et finalement, donc nous on a calculé par rapport au taux de passage tout ça, et on a remarqué que les horaires été-hiver, c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. C'était aussi compliqué pour nous, l'organisation de service. Donc on a décidé de tout harmoniser. Alors à partir du 1er avril, les horaires, donc pour celles qui étaient ouvertes le matin, sont ouvertes de 9h à midi. Et pour celles qui étaient ouvertes l'après-midi, sont ouvertes de 14h à 17h30 tout au long de l'année.
Bien sûr, avant ce changement, le service Jean-Pierre et Rémi ont sollicité les communes avoisinantes de ces aires de tri et ont expliqué un peu le fait que c'était compliqué de pouvoir reprendre en régie ces deux aires de tri. Et de maintenir le même taux d'ouverture que ça l'était précédemment.
Mais nous avons toujours été très très bien accueillis par les conseillers municipaux et on est tombé facilement d'accord. Voilà.
Je vous remercie tous, Monsieur Jean-Pierre Rouy, Madame Wafa El Ayani et Monsieur Rémi Aubert, de votre passage à Aire d'Ivoire pour nous parler de la recyclerie et puis des nouvelles aires de tri en mutation actuellement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Going to Arcata Blues.
Leave the city.
Got to leave the city. Going to Arcata Blues.
Leave the city.
Got to leave the city. Guess I'll see you later, dude.
See you later.
blues, c'est des blues. Quand les vaquines font tourner, c'est des blues. Quand les vaquines cassent, c'est des blues.
Jesus save all the coupons!